Navalny, c'est une créature collective. C'est tous les gens qui rêvent d'un autre futur pour la Russie. Navalny, c'était l'exemple qu'on pouvait être démocrate, opposant, faire entendre une voix, même depuis le Grand Nord. Il fallait que cet homme disparaisse.
Déjà, tous les regards se tournent vers Vladimir Poutine. L'ONU, notamment, demande à ce qu'une enquête soit menée. Peu de chances que celle-ci aboutisse avant la présidentielle, sans aucun suspense, qui aura lieu dans moins d'un mois. Deux ans après le déclenchement de la guerre en Ukraine qui devait, selon certains commentateurs, entraîner sa chute, force est de constater que le maître du Kremlin résiste. Sur le terrain, l'armée russe enregistre des avancées malgré des pertes humaines importantes. Pour couronner le tout, le tsar des temps modernes que semble être devenu Vladimir Poutine bénéficie d'une conjoncture internationale favorable. Son allié de circonstance, Donald Trump, pourrait être élu de nouveau en novembre prochain. Qui peut l'arrêter ?
Simulacre d'élection, oui, surtout qu'il y a ces nouvelles règles qui sont imposées en Russie. Vous vous souvenez, avant, pour l'élection présidentielle, il y avait un jour de scrutin, un jour de vote. Oui. Maintenant, cette élection, elle s'étale sur plusieurs jours. La faute à la nécessité de frauder, pardon, c'est vraiment une expression un petit peu, c'est pas la meilleure des expressions, mais c'est vraiment à ça que se servent ces trois jours.
Sans observateurs internationaux,
c'est aussi pour mettre en place le vote électronique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les Russes massivement votent via Internet. Et donc ceux qui ne votent pas par Internet, parce que beaucoup de Russes, notamment en région, n'ont pas Internet, et bien il y a des gens très bien intentionnés qui vont voter pour eux et qui vont bien voter. Et donc le temps de rassembler tous ces votes, et bien maintenant ça nécessite trois jours. Donc le système de fraude électorale a un petit peu évolué. On n'est plus dans le bourrage d'urne classique, un peu grossier, un peu brutal. Il y a des nouvelles manipulations et comme d'habitude, ça sera évidemment un simulacre d'élection.
Présenter la situation en Russie comme si c'était un système politique et une société politique. Ce n'est rien de tout ça depuis des années. C'est une dictature.
On n'utilisait pas ce mot jusqu'à présent. Beaucoup de diplomates ne disaient jamais c'est un dictateur. Maintenant, on dit c'est un dictateur. Poutine.
Pour nous, les universitaires et les journalistes, depuis quelques années, c'est difficile de trouver un autre mot. Autoritarisme. C'est un homme qui tue. Et non seulement il a essayé d'empoisonner déjà Navalny, qui n'aurait pas dû survivre en août 2020. Il laisse croupir dans des conditions ignobles ses opposants, et qui sont aujourd'hui, de mon point de vue, les grands résistants.
Oui, c'est ça, vous dites résistants.
Oui, résistants, parce que dans une dictature, il n'y a pas d'opposition. Ça n'existe pas. Pour ça, je pense qu'il faut cesser de parler d'élection. Ce n'est pas une élection, ça fait longtemps que ce ne sont plus des élections en Russie. Il n'y a pas trois autres candidats, tout ça c'est de la mascarade. Et je voudrais ajouter à ce qu'a dit Xenia, qu'ils ont augmenté le vote électronique qui pourrait être plus d'un tiers. Mmh. Et là, c'est eux. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas de... Je peux même vous assurer qu'aujourd'hui, au Kremlin et à la Commission électorale centrale, ils ont déjà décidé exactement quel serait le pourcentage des personnes qui auraient voté, et le pourcentage pour M. Poutine.
Quelles que soient les modalités suivant lesquelles il a été finalement assassiné, il est responsable parce que d'abord il a désigné Navalny comme son opposant numéro un. Pourquoi est-ce qu'il a désigné
comme son ennemi?
Comme son ennemi et comme son opposant. Et pourquoi
sans jamais le nommer.
Et pourquoi est-ce qu'il a fait cela? En effet, sans jamais le nommer. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Parce que Navalny s'est occupé... C'est attaqué au cœur du dispositif, c'est-à-dire à l'argent, à la corruption, le château, les biens mal acquis. Et ça, Poutine le supporte mal, et le supporte même pas du tout, la preuve. Ensuite, en effet, comme ça a été dit, il a essayé de l'assassiner au Novichok, probablement les pieds nickelés, aussi le sens du devoir.
C'est quoi les pieds nickelés?
Les gens qui étaient chargés de l'exécution. Ah oui. Les gens du FSB chargés de l'exécution, s'ils sont probablement mal pris. Oui. Et puis les médecins ont fait leur boulot, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de le sauver. Et ensuite, il a dû accepter le transfert à Berlin parce que Mme Merkel voulait absolument le récupérer. Et là, il a, faute grave pour Poutine, il a défié une nouvelle fois Poutine en disant « Je ne veux pas rester à Berlin », ce qui en réalité était le souhait du Kremlin, je veux rentrer en Russie, je sais bien quel sera mon sort, je serai arrêté, je serai jugé, je serai jeté en prison, mais c'est ce que je veux faire parce que je veux témoigner. Je ne suis pas de ces opposants qui cherchent refuge à Londres ou en Suisse. Et il l'a fait, et donc en effet, aujourd'hui, c'est une icône, c'est un martyr, effet, et très justement, son épouse veut prendre le relais.
Stalinienne, on estimait qu'un citoyen soviétique sur trois balançait ses petits camarades ou ses voisins ou des membres de sa famille de façon régulière et souvent même rémunérés par les services de renseignement. Donc il y avait toujours un petit billet, un petit morceau de pain, quelque chose en échange à gagner. Des avantages. Après Staline, évidemment, la pratique a un petit peu cessé, mais il y a toujours eu une culture de la délation et elle a toujours été encouragée dans les administrations. Par exemple, dans l'éducation nationale, au sein des hôpitaux, au sein des universités, il y avait toujours le directeur d'établissement qui devait être bien vu par le député local ou le maire local. Et donc cette culture un petit peu de se dire les choses.
Tout le système, il est fait pour museler la parole des dissidents.
Pas nécessairement pour museler, c'est pour dénoncer celui qui sort du rang. À l'époque, c'était celui qui n'était pas un bon pionnier ou un bon comsomol ou un bon membre du parti. Aujourd'hui, c'est celui qui ne respecte pas Vladimir Poutine ou qui n'est pas d'accord avec sa guerre en Ukraine. Donc, il y a juste les thèmes ont changé,
le principe est le même
et la pratique reste la même. Alors, est-ce que c'est Vladimir Poutine aujourd'hui qui est responsable et qui pousse les gens à la délation en personne? Je suis pas sûre. Je pense qu'il y a vraiment de l'excès de zèle de la part de ses partisans. Il y a énormément de mouvements. Vous parliez de ces petits groupuscules sur Internet. Il y en a plusieurs qui sont particulièrement terrifiants parce qu'ils passent leur journée à scruter les publications en ligne des uns et des autres. Et aujourd'hui, pour un riposte, pour un retweet, par exemple, d'une publication d'un agent de l'étranger, de quelqu'un qui est reconnu comme agent de l'étranger en Russie, vous pouvez prendre de la prison ferme.
Et Marie-Madame. La répression, les assassinats, les emprisonnements absolument iniques, enfin, tout cela, c'est... L'une des faces de la dictature, l'autre face, c'est l'agression d'un pays ami, voisin, qui n'a jamais menacé la Russie ni les Russes, et qui reçoit des coups, des bombes absolument tous les jours depuis 2 ans. Et Poutine a dit très clairement depuis le début que c'était une guerre de destruction, qu'il voulait anéantir la nation ukrainienne, l'Ukraine, que de toute façon les Ukrainiens n'existaient pas. Donc on n'est pas dans une guerre de conquête, on est dans une guerre d'anéantissement et de destruction, qui est la même pulsion, au fond, que l'élimination de Navalny. Je voudrais ajouter un tout petit point sur la très grande différence entre aujourd'hui et il y a 100 ans, enfin, ou l'époque stalinienne, ou l'époque soviétique, c'est le monde... de l'Internet et des réseaux sociaux. Et ça, c'est à double tranchant pour la dictature. Parce que Navalny, s'il est devenu aussi grand, un vrai géant contre le système Poutine, c'est qu'il avait plus de 10 millions de clics pour ses émissions, ses enquêtes, etc. Il avait aussi, en plus de sa fondation pour la lutte contre la corruption, il avait fondé un mouvement politique il y a quelques années et il avait ouvert des QG de campagne dans plus de 40 provinces républiques de Russie.
On va revenir à 2007-2008. En réalité, le vrai tournant, c'est à cette époque-là. 2007, il y a donc 17 ans. Poutine était d'ailleurs au grand forum de sécurité de Munich. Dans le fond, la mort de Navalny, c'est le jour anniversaire d'il y a 17 ans où il a déclaré à Munich... C'est fini, moi j'ai été coopératif avec les Occidentaux jusqu'à maintenant, je ne suis pas de payé de retour, d'ailleurs il n'avait pas à être payé de retour, maintenant je défendrai mes intérêts. Travaux pratiques l'année suivante, les chars russes sont allés vers Tbilissi.
En Géorgie.
Sarkozy a négocié vaguement un cessez-le-feu, mais pas évidemment une paix, et on est retourné à la situation antérieure légèrement empirée.
Mais l'Europe à ce moment-là a triomphé, a dit regardez...
Oui, mais le cessez-le-feu ne résolvait rien du tout, puisque les deux enclaves pro-russes ont proclamé unilatéralement leur indépendance, et que Poutine, qui chemine pas à pas depuis cette époque, a reconnu l'indépendance unilatérale de ces deux enclaves qui sont géorgiennes. Et puis ensuite, en 2014,
la Crimée.
Il a annexé la Crimée. Et dans le fond, année électorale aux États-Unis, la réaction était modeste. On a mis sur une liste de punition un certain nombre d'oligarques qui avaient trempé dans cette annexion, ou d'oligarques ou de technocrates, mais finalement assez peu de choses, et puis ensuite la déstabilisation du Donbass dans l'année qui a suivi, des sanctions économiques, mais des sanctions économiques également finalement assez faciles à contourner, et que d'ailleurs la Russie a contourné. Et puis, Poutine s'est dit, il y a exactement 2 ans, finalement je peux y aller, qu'est-ce que je risque? Et puis depuis, entre-temps, évidemment, il s'est enfermé, son enfermement, notamment avec le Covid, s'est nettement aggravé, il ne voit plus personne pratiquement, et donc il a réécrit son histoire quelques mois, un an avant l'agression en Ukraine. Il a écrit un grand article et où il a dit ce qu'il a répété hier matin, c'est très très grave, naturellement que l'Ukraine ça n'existe pas. Et il a dit hier matin, ce qui est encore plus grave me semble-t-il, que pour la Russie, l'Ukraine était une question de vie ou de mort. C'est le vocabulaire technique du recours à l'arme nucléaire. C'est-à-dire qu'un pays peut recourir à l'arme nucléaire lorsque ses intérêts vitaux sont en jeu. Il a dit hier matin que pour lui, l'Ukraine, c'était un intérêt vital. C'est particulièrement grave.
Ça, les sanctions économiques, elles ont eu un effet, mais pas d'effet...
Il n'y a pas eu d'effondrement.
Pas d'effondrement du régime, au contraire. Regardez dans quel état était la cote de popularité de Vladimir Poutine au moment où il commence...
Où il
envahit la Crimée. La Crimée, pardon.
L'Ukraine.
L'Ukraine, invasion à grande échelle. Il est avec une cote de 60%, ce qui est très très bien, par exemple, pour des Occidentaux, mais là-bas, c'est pas terrible. Après le début de la guerre, après les annonces triomphalistes en disant on va prendre le pays en 3 jours, et puis on va récupérer ce qui nous appartient, ce qui nous revient de droit. Certains sondages, alors évidemment les sondages, encore une fois, on ne peut pas vraiment les prendre toujours à la lettre, mais sa cote remonte. Il a quand même un soutien assez conséquent, et surtout ce qu'il faut noter, c'est que là, pendant ces 2 dernières années, il a repris en main la société civile. Il a repris en main notamment l'éducation des enfants, en mettant l'accent sur l'éducation militaro-patriotique des gamins. En 2016, le ministère de la Défense crée la fameuse Younarmiya, c'est l'armée des jeunes dans laquelle on enrôle de façon quasi systématique les enfants de fonctionnaires. Ils étaient 20 000 en 2016.
Combien aujourd'hui ?
2 millions.
Et surtout dire, c'est que la plus grande faiblesse d'une dictature, c'est quand elle recourt à la violence extrême tout le temps, et chez elle et en Ukraine. Nous soutenons tous l'Ukraine, nous la portons financièrement, économiquement, militairement. Nous n'en faisons pas assez, mais comme nous n'avons pas le choix, nous allons l'aider beaucoup plus. Car les Européens ont bien compris que si nous ne donnons pas les moyens à l'Ukraine de repousser l'agresseur, il n'y aura pas de sécurité en Europe.
Sauf que, Claude Blanche. De la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire que depuis le début, il dit aux États-Unis d'Amérique, vous ne pouvez pas vous battre en Ukraine, vous ne pouvez pas envoyer de soldats en Ukraine, parce que j'ai l'arme atomique. Et Joe Biden, depuis le début, a dit, OK, on n'enverra pas de soldats en Ukraine. Et l'OTAN, de la même manière. Donc, en maintenant à distance les États-Unis et l'OTAN, qui ne peuvent pas aller se battre pour aider les Ukrainiens, effectivement, l'Ukraine se trouve très affaiblie. Alors, Poutine tolère que les Occidentaux donnent des armes, donnent de l'argent à l'Ukraine, mais en quantité insuffisante. Au stade où on en est, nos armureries, nos stocks sont complètement vidés. Il n'y a plus rien en Europe. Parce que les cost killers européens sont passés par là et que nos armées n'ont pas de stock. Donc ce qui était possible à donner a été donné. Il y a des stocks aux États-Unis. Et aux États-Unis, Donald Trump veille avec une escouade de députés à empêcher le vote de ces 60 milliards de dollars que le président Joe Biden a mis sur la table. Donc actuellement, on est dans une difficulté considérable.
Xenia Bolshakova.
Au-delà de l'affaire ukrainienne, j'aimerais revenir sur ce que disait Marie. Moi, je trouve que pour le coup, Vladimir Poutine a rarement été aussi fort parce que non seulement il a éliminé Evgeny Prigogine, qui était une menace directe pour son pouvoir
Emily
politique,
Wagner.
Et qui marchait. Prigogine, qui était en train de marcher quand même sur la capitale, qui était en train de fomenter un coup d'État. Élimine Navalny, qui de l'intérieur représentait justement cette résistance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste en Russie? Il reste 15% d'une population totalement fanatisée qui le suit jusqu'au bout et qui ira jusqu'au bout avec lui. Le reste, on a un ventre mou terrorisé qui n'a pas d'avis, qui ne sortira pas dans la rue et qui a extrêmement peur de finir en prison. Et une dissidence écrasée, réprimée et absolument terrorisée.
Et une élection le 15 mars.